France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est l'une des plus grandes chanteuses lyriques françaises que nous avons la chance d'attraper ce matin au vol à la veille d'un concert en direct, en ligne, à l'Auditorium du Louvre. Bonjour Sandrine Piau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Concert Vivaldi, donc demain midi au Louvre, à l'Auditorium, avec le concert de la loge de Julien Chauvin, concert sans public mais en direct, à voir en ligne. La semaine dernière, c'est au Châtelet, dans Handel, avec Christophe Rousset et ses talents lyriques que vous produisiez, en streaming aussi. Comment vous appréhendez ces nouveaux concerts en direct de confinement sans public ?
On les aborde, c'est très partagé, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un bonheur absolu qu'il existe quelque chose par rapport au premier confinement où tout a disparu. On sent une résilience et je trouve ça formidable. Et en même temps, pour citer quelqu'un de très connu, c'est très compliqué de faire des concerts, je trouve, sans public, parce que ce qui nous nourrit, c'est le public. On a beau savoir qu'il est derrière un écran, on n'a pas ce rapport physique, charnel aux gens, et puis l'interaction qui existe quand un public vous renvoie une émotion ou juste le bonheur.
Et vous applaudit
aussi, mais les applaudissements, c'est presque annexe par rapport à ce qu'on sent
quand on chante,
quand
on joue.
Chante, de l'émotion des gens ou du bonheur qu'ils ont juste à être là.
Vous parvenez à convoquer la même, à rassembler la même énergie, la même concentration quand c'est en direct notamment?
Alors quand c'est en direct, et c'est en direct à chaque fois, ça donne quand même quelque chose, un rapport au temps de immédiat, donc on peut trouver une énergie du concert. Maintenant, on pense plus aussi, c'est un mélange entre l'énergie du disque et l'énergie finalement du concert. C'est une chose un peu hybride, une sorte de chimère, et je pense qu'on vit dans une époque un peu chimérique. Donc.
C'était pas un titre d'album, ça d'ailleurs, chimère?
Si, mais je voulais pas forcément y faire référence, mais ça fait partie de mes obsessions personnelles, voilà, de ces choses qui se hybrident et qui se transforment. Et là, on est dans une société qui cherche un idéal dans une chose, dans une situation qui ne l'est pas, de toute façon, qui cherche pas un idéal, mais une autre voie de faire les choses. De sortir de tout ça.
Sandrine Piau, à propos d'albums, de disques, 1, 2, 3, 4, j'en compte 4 sorties cette année. On va essayer d'écouter quasiment tous les 4 et en voici un premier, c'est Mozart, Magique Mozart.
Papa, give me the heart of the children, give me the heart of the children.
Mozart, le duo Papagena, Papageno, Florian Sempé, avec notre invitée Sandrine Pio, l'orchestre Insula de Laurence Equilbet, cet album Magic Mozart ou Magic Mozart, paru chez Rateau. La magie de Mozart, magie blanche, magie noire, magie rouge, nous racontait il y a quelques semaines ici même Laurence Equilbet, cet aspect du compositeur qui était d'ailleurs en prime time à la télé hier soir sur France 3 dans une émission de Stéphane Bern, Secret d'Histoire, qui racontait la vie du compositeur. Ici, on va sur cette magie, mais on va aussi autour de la philosophie maçonnique de Mozart. C'est des aspects qui sont importants pour comprendre, pour chanter sa musique ?
Pas nécessairement. Enfin, je trouve toujours intéressant de savoir quel est l'homme qui se cache derrière le personnage, mais en fait, est-ce que c'est primordial de savoir que Mozart était un monsieur facétieux, un peu scato, et etc., ou la maçonnerie. Je pense que finalement, le miracle de sa musique est très, très au-delà de ça, même si c'est très intéressant, évidemment, d'embrasser un petit peu les aspects voilà, divers de sa personnalité. Mais c'est pas forcément à ça que je me réfère. Voilà, il y a quelque chose de magique dans Mozart. Effectivement, on dit que sa musique apaise certains malades, qu'on a fait que Mozart plus que tout sur des personnes autistes. Alors, je sais pas, c'est vrai, je suis pas médecin, mais que vraiment ça avait un pouvoir de baume. Et en tout cas, je suis persuadée qu'effectivement, il y a une magie dans Mozart que je n'explique pas véritablement. Et que je ressens en tout cas dans le bonheur et la variété d'expression, d'affect qu'il nous fait ressentir.
Les magies de Mozart, les différentes magies sur ce disque. D'ailleurs, il y a un spectacle. D'ailleurs, sur le disque, on entend aussi des effets spéciaux, des bruits, l'orage, le vent. C'est un projet de Laurence Equilbet auquel vous avez adhéré.
Ah oui, de toute façon, je trouve que les ouvrages se meurent du trop de respect dont on les entoure et que la musique reste une musique vivante. Et je trouve ça toujours très intéressant de tout d'un coup ce murmure à la fin de vent, à la fin du trio de Cosi ou des choses comme ça. Je trouvais ça très intéressant et le disque permet ça, parfois la scène, il faut faire vivre les œuvres et proposer des choses. Je trouve ça, oui, j'aime beaucoup.
La Sandrine Pio vient de nous entendre en Papagena, mais on vous connaît peut-être davantage en Pamina.
Oui. En fait, j'ai jamais chanté Papagena sur scène. Par contre, c'est très drôle, j'ai fait en concert parce que Mozart, c'est aussi le plaisir des ensembles. Je trouve que chanter à plusieurs, c'est quand même un grand, grand bonheur. Et ma formation baroque m'a fait débuter dans des formations d'ensemble. Donc, j'aimais beaucoup faire ce duo, mais c'est vrai qu'en scène, j'ai chanté Pamina uniquement.
Mozart, ce sera normalement, croisons les doigts, le 27 janvier, date de son anniversaire, d'ailleurs, au Théâtre des Champs-Élysées, pour un cosy en version de concert.
Oui, en version de concert, avec Giardino Armonico. Non, avec le KOB, pardon. Parce que
le Kammer Orchestra.
Le Kammer Orchestra, pardon, je me mélange les pinceaux parce que c'est Giovanni qui va diriger.
Giovanni Antonini.
Voilà, Antonini. Et donc, voilà, qui est en chef invité. Et ben oui, on espère, on croise les doigts parce que c'est évidemment.
27 janvier au Théâtre des Champs-Élysées, l'opéra vous manque ? C'est quand la dernière fois que vous avez endossé un costume ?
Oh ben c'était, alors curieusement, c'était en juillet dernier où on a maintenu des répétitions pour la création contemporaine de Kaya Sarriao qui devait avoir lieu au Festival d'Aix en juillet dernier. Et Pierre Audi a fait le pari de maintenir les répétitions.
Le directeur du festival.
Voilà, le directeur du festival. Donc on est allé jusqu'à une générale piano et on a quand même endossé le costume, pas de public, on a fait une sorte de filage pour pouvoir faire ce spectacle dans l'édition de l'année prochaine, en espérant que voilà que la vie nous y emmène. Et donc, mais sur scène véritablement, non. Là, Zurich vient de tomber. Il y a trois jours, j'ai appris l'annulation d'une Alcina qui devait avoir lieu en décembre-janvier. Donc ça y est, là, j'ai fait le grand chelem. Toutes les productions d'opéra qui restaient sont parties. Et la résilience vient des petites structures, des concerts. C'est vrai qu'ils résistent mieux, qu'ils ont une formation plus souple, moins de gens. Et c'est par eux, en ce moment, que la musique continue, en tout cas. Voilà. Il y a vraiment une vraie séparation entre concert et opéra. L'opéra est vraiment crucifié sur place.
des rôles qu'on prépare souvent des mois à l'avance, qu'on apprend parfois quand c'est des prises de rôle. Vous, par exemple, pour ces prochains mois, pour la saison prochaine, vous êtes déjà en train de préparer en vous disant peut-être que ça tiendra, peut-être que ça tombera, comme vous le disiez.
Alors, je dois dire, je vais plutôt me replonger dans l'ouvrage de Kaya Sarriao, qui de toute façon a besoin, comme souvent la musique contemporaine, de strates, de couches, donc c'est très bien, mais j'arrête en ce moment de voir trop loin. Enfin, voilà, on prépare des choses quand ça vous plaît, et puis des concerts, mais en fait, j'allais plutôt à reculons maintenant. Je préparais des choses pendant longtemps et revenais en arrière, plutôt que de faire dans un ordre chronologique, parce que je trouve ça terrible de porter les projets, de les voir s'écrouler. Il y a un moment donné, je trouve que c'est comme lutter contre une vague qui vous rejette tout le temps par terre. Je pense qu'il vaut mieux aller plus loin au niveau des vagues, mais là effectivement scéniquement, non, je prépare pas de choses particulières, j'ai pas en mémoire beaucoup de concerts, donc préparer ça.
Sandrine Pius, cette crise a-t-elle changé votre vision du métier à cet égard-là, d'appréhender?
En tout cas, elle a pas tellement changé ma vision du métier en lui-même, parce que je pense que j'avais fait un peu le tour de ma vision du métier. Mais par contre, c'est vrai que la société en général, et donc une partie de notre métier, on voit comment réagissent les grandes structures, les petites. C'est vrai qu'il faut certainement acheter des tomates locales et arrêter de prendre des avions pour un oui ou pour un non pour traverser le globe. Alors après, c'est un peu compliqué dans nos professions aussi, où on voyage, et d'ailleurs on voyageait de tout temps, à travers des siècles, pour exporter notre culture. Mais je pense qu'il faut revenir peut-être à quelque chose de plus raisonné, même si j'aime pas beaucoup ce terme. Et c'est vrai que j'ai pu constater, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, que les petites structures ont beaucoup d'empathie, soutiennent énormément leurs artistes. Certaines grandes, j'en suis beaucoup moins convaincue. Les opéras qui nous ont lâchés n'ont souvent pas fait un geste, alors que des structures ayant très très peu de subsides, de subventions, ont mis en place tout de suite une aide. Et je trouve que c'est intéressant au niveau sociétal, mais je pense que c'est à réfléchir.
Sandrine Pio est notre invitée ce matin sur France Musique. Et un Mozart peut en cacher un autre ?
Thank you.
Non Aïkor, extrait, c'est un air d'Amital dans Betulia Liberatas, premier oratorio, seul d'ailleurs oratorio achevé, de Mozart, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset et la voix de Sandrine Piou, notre invitée. Alors là, on est dans le Mozart tout jeune, il a 15 ans, il écrit ce premier oratorio quand il est en Italie. C'est une découverte pour vous aussi ?
Alors non, ça n'est pas une découverte parce que j'ai chanté avec Christophe Rousset en concert un autre air d'Amital qui est, alors il y a, c'est Retour vers le futur, je crois que c'était il y a 15 ans ou 20 ans, donc je connaissais un petit peu l'ouvrage, pas dans sa totalité.
Mais pas tous les airs d'Amital.
Non, et surtout pas tout ce qui entoure, parce que c'est un ouvrage conséquent. Mais c'est vrai que ce Mozart de jeunesse, j'avais un peu creusé quand j'avais enregistré mon tout premier album avec le Freiburger, parce que il y a des airs extrêmement virtuoses, alors complètement différents de Handel, mais qui sont très instrumentaux, qui ne sont pas ce qu'on connaît de Mozart avec cette vocalité qui est une sorte de baume, de caresse vocale. Là, c'est vraiment autre chose, et souvent effectivement des vocalises et une virtuosité débridée. Et jeune, j'étais comme ça très ductile, donc j'ai abordé pas mal d'ouvrages de jeunesse, en tout cas des airs choisis. Donc j'avais un petit peu connaissance, mais l'œuvre dans son ensemble, je ne l'avais pas chantée jusqu'au concert avec Christophe Rousset, les talents lyriques et le disque.
Tout est bon dans le Mozart de 15 ans ?
Oh, est-ce que tout est bon dans le cochon ? Ça, c'est une question de point de vue.
Il y a du Mozart encore sous influence, vous l'avez dit, mais on entend déjà des choses. D'ailleurs, au début de cette ère, on entend des choses qu'on peut retrouver dans la Flûte enchantée.
Oui, oui, complètement. Moi, je suis une inconditionnelle de Mozart, donc tout me plaît dans Mozart. Après, quand on écoute un oratorio comme ça, il y a des récitatifs, il y a des choses. Chacun prend ce qu'il veut sur un ouvrage dans son ensemble. Je pense que les Mozart plus tardifs a trouvé une espèce d'équilibre parfait entre le drame, la comédie, le théâtre et une humanité du chant. Là, c'est ceux qui aiment la virtuosité en auront pour leur argent. Il y a des moments très dramatiques, des moments très formels, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient ce génie et comment ce qu'il a fait, c'est sa valeur aussi de témoignage. Mais c'est très beau.
Betulia Liberata de Mozart en intégrale qui sort chez Aparté. Ça fait 4 disques sortis cette année. Vous enregistrez beaucoup. Et puis ça, c'est pas. Alors, on va en parler. Il y a aussi maintenant où on peut qu'enregistrer. Mais même quand on regarde les années précédentes, vous enregistrez beaucoup de disques, Sandrine Piou.
Bah, c'est vrai que le mouvement baroque, depuis le début, on enregistrait énormément. En plus, il y a eu cet âge d'or du disque. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour toutes les maisons de disques. Et je les remercie de se battre autant pour faire perdurer le disque comme les librairies tentent de faire vivre le livre. C'est très important. Mais on a connu ce moment, ce foisonnement incroyable. Et je me souviens qu'avec Véronique Jeans, par exemple, dans nos années, Jérôme Correas, quand on a débuté à Aix, chaque production était suivie d'un disque, quasiment. Et alors, on enregistrait des opéras de Campra, des trucs totalement inconnus. C'était incroyable. Et c'était peut-être moins le cas dans le pur lyrique. Et donc, on a fait énormément, énormément de disques. Et je dois dire que peut-être, forte de cette dynamique, je continue d'en faire énormément. Et je suis très, très chanceuse, effectivement.
Et puis c'est des compagnonnages aussi, Christophe Rousset par exemple.
Ah bah Christophe Rousset, voilà, qui m'a fait, qui m'a franchement lancé dans mon premier Handel, qui était Scipione, avec lui, parce qu'avant ça on me connaissait davantage dans la musique française. Du 17-18e siècle avec William Christie. Et puis voilà, après des rencontres, grâce à lui, Handel, on s'est dit « Ah, c'est le bel canto du baroque !» Donc on a pensé à moi pour du Mozart. Et de Mozart, voilà, j'ai rencontré Freiburger, Ivor Bolton, tant d'autres. Enfin, Laurence Equilbé, puisqu'on en parlait. Enfin, et Jérôme Coréas dans La Nouvelle Génération, le Concert de la Loge. Enfin, il y a un foisonnement. Alors là, pour le coup, je surfe sur la belle vague, celle-là, qui date de longtemps maintenant.
Deux disques avec Christophe Rousset cette année, le Betulia Liberata, mais aussi ce Stabat Mater de Pergolèse. Pergolèse, Stabat Mater, Sandrine Pio, Les Talents Lyriques, dirigé par Christophe Rousset. Disque paru également cette année. Ça vous ramène quelques années en arrière aussi,
voilà.
Sandrine Pio, ici.
Maîtrise de Radio France, ici, quand j'avais 10 ans, où le Stabat Mater de Pergolèse était chanté par les enfants. Il y avait très peu de solos et on faisait pratiquement toute la pièce en cœur d'enfant, donc c'était... Voilà, c'est un souvenir toujours très émouvant pour moi, parce que c'est un peu le début de tout, la maîtrise de Radio France ici. Donc.
Vous vous sentez chez vous ici ?
Un peu, je me perds toujours autant, mais oui, un peu.
Les micros de France Musique seront là demain midi pour enregistrer le concert à l'Auditorium du Louvre, avec Julien Chauvin, le concert de la loge Vivaldi. C'est aussi en ligne, en direct, sur le site de l'Auditorium du Louvre. Je voudrais qu'on se quitte avec un disque qu'on a évoqué déjà il y a quelques semaines, avec son initiatrice, deux de ses initiateurs, Rosemary Stanley et Johann Fargeau. C'est Schubert in Love, auquel vous avez participé. Dans quelles circonstances, Sandrine Pio ?
Ben dans la circonstance qu'on m'a demandé, alors moi j'avais déjà entendu Rosemary Stanley, dont j'aime énormément l'univers, et puis l'ensemble contraste aussi, donc je trouvais
les
ça
arrangements autour de Schubert.
Oui, je trouvais ça de toute façon très intéressant, et voilà, et donc je dis bah oui, bien sûr, de toute façon je suis un peu curieuse par nature, donc voilà, ça m'intéressait parce que j'aimais les artistes qui participaient aussi, tout simplement.
Vous enregistrez tellement de disques que moi j'avais oublié que vous aviez participé à ce disque. Vous l'avez apporté. Et donc c'est à vous de choisir la plage. Qu'est-ce qu'on écoute?
Bah, le Haydn Rüslein, qui est peut-être léger, dans une époque un peu triste comme ça, un peu lourde.
Sein Knaben, Rüslein steht, Rüslein. ein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide.
Folk, Haydn, Röslein, les voix mêlées de Sandrine Piau, notre invitée ce matin, et Rosemary Stanley avec l'ensemble Contraste. Merci Sandrine Piau.
Merci beaucoup.
Bon concert demain à l'Auditorium du Louvre en direct, sans
oui,
public.
À 12h30, il va falloir chanter du Vivaldi à cette heure-là.
À 12h30, Vivaldi. Demain, notre invitée sera Sami Rachid, un quart du quatuor Harrod, nouveau disque Schubert, là encore, qui vient de paraître au générique ce matin. Emmanuel Morse d'un camp YouTube, Diego Aclopès, Margot Muller, Laure Poissonnier, Marion Guillemet et Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.